When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Notre invitée a passé sa vie à écouter les autres. Pendant des décennies, elle a recueilli à la télévision les confidences, les doléances, les blessures, les traumatismes. Parfois, elle les a même soignées ou atténuées, un peu malgré elle, juste parce qu'elle avait la bonne façon de les entendre et de les interroger. Sans voyeurisme, mais sans fausse pudeur non plus. Bas les masques, vie privée, vie publique, cela a donné des moments de télé inoubliables. Linda, maman à 14 ans, Bernard Giraudot, prêt à affronter le cancer et la mort, Simone, transsexuelle et prostituée, notre invitée a levé des tabous, desserré des carcans, démonté les préjugés. Et puis elle a montré que le petit écran pouvait être un espace où l'intime révèle l'universel, où les secrets exposés des uns pouvaient être les secrets inavoués des autres. Cela a fait du bien à beaucoup de monde, en particulier à ceux qui se pensaient différents, rejetés, niés. Elle a fait respirer la France. Toutes ces rencontres, notre invitée leur a donné une seconde vie sur sa chaîne YouTube avec Lina. Et le public est encore au rendez-vous. Mais il est plus jeune. Faut-il s'inquiéter de ce succès? Est-ce qu'on souffre encore des mêmes rejets, des mêmes préjugés, des mêmes complexes? Quels sont les tabous d'aujourd'hui? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue Mireille Dumas. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Ici au Sénat, au Dôme Tournon, journaliste, réalisatrice, productrice, animatrice. Bonne ou mauvaise nouvelle finalement, le carton de votre chaîne YouTube? Est-ce que ça veut dire que les gens se reconnaissent encore dans les souffrances qu'ils entendent dans les témoignages?
Écoutez, moi, ce que je trouve de formidable, c'est justement de pouvoir toucher une autre génération, de retrouver certains qui ont suivi les émissions, mais de pouvoir parler aux jeunes, aux plus jeunes. Et vous avez raison, se pose en creux l'autre question. Pourquoi les choses avancent-elles aussi doucement? Et ça, c'est une vraie question.
Parce que vous avez des échanges avec ce public qui regarde sur YouTube vos vidéos. Ils vous disent, moi j'ai vécu la même chose, j'ai vécu ce rejet. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Oui, mais surtout, ils demandent, et c'est ce qui s'est passé. Vous parliez de Linda, maman à 14 ans, par exemple. Ça a été les premières demandes. Qu'est-elle devenue? Comment s'en est-elle sortie? Et c'était une expérience absolument incroyable. Et c'est aussi une envie que j'avais. Et du coup, je suis passée à l'acte, à l'action. J'ai retrouvé, et c'est ce que je fais tous les mois maintenant, j'ai retrouvé Linda 40 ans après, vous imaginez, ou 35 ans après. C'était une maman accomplie et qui a fait mentir, justement, elle, tous les pronostics. Maman célibataire, vous imaginez, à 14 ans. Et en fait, elle n'a jamais lâché, elle a voulu élever seule cette fille. Et on voit à quel point... En fait, toute son histoire était liée, encore une fois, au secret de famille.
Une jeune femme très, très forte. J'ai revu l'interview, effectivement, pour préparer cet entretien. Vous abordiez, il y a 30 ans, les questions de genre, d'inceste, de violence conjugale, qui sont des questions extrêmement actuelles. Vous diriez que, quelque part, vous avez été un peu une lanceuse d'alerte?
Oui, on peut. C'est le mot que l'on dit, aujourd'hui. L'on dit maintenant, oui. Pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'était de donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, de mettre des mots sur les traumatismes, de parler des tabous. Il y avait beaucoup de choses dans les années 80. On repart dans la France des années 80, 90. Beaucoup de sujets qui étaient tus. Et donc, bas les masques, d'ailleurs, l'idée de ce titre, c'était d'aller au-delà du masque, d'aller un petit peu derrière la façade pour parler vrai, pour dire les choses.
Vous avez beaucoup interviewé les victimes. Oui. Est-ce que, par exemple, vous pourriez aller interviewer les bourreaux, entre guillemets?
Mais les coupables. Les ai interviewés.
Vous l'avez fait aussi.
J'ai fait une grande série. Je dis une grande série parce qu'elle avait beaucoup marqué à l'époque, qui s'appelait Crimes et Passions. Et c'est une enquête qui a duré un an dans les prisons. prison française. Mmh. Et donc, je suis allée à la rencontre de ceux qui avaient tué leur conjoint, de ceux qui avaient commis des agressions sexuelles, parce que ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment, justement, tout un chacun, parce que je pense que, évidemment, la noirceur appartient à tout individu, et qu'en tout cas, sur le crime, sur le fait de tuer une personne que l'on aime, ça peut arriver à tout moment. Je n'ai pas envie de dire à n'importe qui, mais en même temps, je le dis. Voilà, je pense que si on appuie parfois sur des traumatismes forts que l'on a à l'intérieur, d'enfance, etc., ça peut nous faire basculer. Donc, je suis aussi allée à l'écoute de ces personnes-là, et je trouvais ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tant pour tendre le micro à l'agresseur que pour essayer de comprendre comment, justement, on peut ne pas en arriver là. C'est essayer de détricoter le fil avant de passer à l'acte.
L'inhumanité fait partie de l'homme.
Bien sûr, et j'ai envie de reprendre cette phrase, tout ce qui est humain, rien ne m'est étranger de ce qui est humain, je la reprends à ma sauce, mais bien sûr, il y a ce moment de bascule de tout être humain, et ce qui est intéressant, en tout cas pour revenir aux agressions sexuelles, parce que ça, je pense que c'est le plus important, par rapport au crime, tuer l'être que l'on a aimé, c'est encore autre chose. Mais par rapport à l'agression sexuelle, il y a des tas de choses à faire, effectivement. Et moi, à l'époque, je me souviens que quand j'en parlais, je me référais souvent au Canada, qui était très en avance et qui faisait des groupes déjà de parole et qui essayait de venir en amont sur tous les enfants, puisqu'on sait que beaucoup ont été des enfants abusés quand ils étaient enfants déjà.
Ce que je trouve frappant en revoyant vos interviews, c'est aussi le changement de vocabulaire. À l'époque, on parlait plutôt de crimes passionnels. Ouais. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Est-ce que vous diriez qu'effectivement, le vocabulaire n'était pas adapté ? Est-ce que vous le pressentiez un peu, vous aussi ?
Oui,
crimes passionnels ?
Je ne disais pas crimes passionnels, c'était crimes et passions.
Ouais. Vous sentiez déjà que c'était déplacé de parler de crimes passionnels ?
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, puisque quand on tue, de toute façon, on ne peut pas y mettre en même temps de l'amour dans tout ça. Mais en même temps, si on tue l'être aimé, c'est qu'il y a une espèce on accapare l'autre. L'autre vous appartient.
Il y a une possession.
En fait, il y a une possession, bien sûr, de l'autre total. Et vous estimez que sa vie vous appartient. Et le monstre que vous devenez, c'est très, très souvent, et c'est pour ça que vous voyez dans les faits divers, souvent des personnes qui mettent du temps, parfois qui ne le disent pas, mais qui mettent du temps à avouer, c'est que... Avouer que vous êtes ce monstre, c'est très compliqué. Donc, en général, vous parlez de l'autre. L'autre étant le monstre, ce monstre qui est en vous.
On a avancé sur les questions de violences faites aux femmes, de harcèlement, d'homophobie. Sur quoi n'a-t-on pas avancé depuis 30 ans, d'après vous ? Je vous voyais notamment parler de la crise agricole, et c'est très actuel, et vous en parliez déjà aussi à l'époque. Vous diriez qu'on n'a pas avancé là-dessus ?
Pas du tout. Vous voyez que ce sont les mêmes termes qui sont employés, les mêmes problématiques, des agriculteurs qui ne s'en sortent pas, qui n'ont pas assez de moyens, pas assez d'argent, qui souffrent de solitude. C'était déjà, tout était dit. Vous parliez du vocabulaire, c'est bien qu'il ait changé, parce qu'effectivement, quand j'abordais des problèmes à l'époque de transsexualité, je le vois dans les émissions, je passe beaucoup de temps à dire ce n'est pas un problème de sexualité, c'est un problème d'identité, de ce qu'on a vraiment dans la tête. Donc c'est très bien qu'on parle maintenant de transgenre.
Et pourtant, qu'est-ce qu'on vous a raillé, moqué ? Qu'est-ce que la critique a aussi été sévère avec vous, alors que vous pointiez des problèmes qui, 30 ans après, se sont avérés très actuels ?
Et surtout, sur les violences faites aux enfants.
Oui.
Et aux femmes, et je me rappelle, je me souviens, je ne citerai pas des noms.
Vous pouvez, il y a prescription.
Me raillant et me disant que je voyais vraiment des violences partout, qu'il n'y en avait pas tant que ça. Quand j'ai abordé, c'est vrai, surtout les violences faites aux enfants, les viols sur enfants, bon, j'ai reçu pas mal de courriers me disant que, franchement, j'étais...
Une rabat-joie ?
Rabat-joie, presque même dans une perversité incroyable pour imaginer autant de souffrances faites aux enfants.
Mais alors comment vous observez ou comment vous écoutez le témoignage d'une femme comme Judith Godrèche, par exemple ?
Ah, ça c'est très intéressant, c'est que je pense qu'il faut que la parole effectivement continue de se libérer. Moi, j'ai semé des petits cailloux et je trouve ça formidable que ça avance. Là où je suis un peu plus gênée, moi je suis pour que la justice fasse son travail. Oui. Et donc je suis toujours un peu embêtée quand la présomption d'innocence n'est pas totalement respectée. Et en même temps, je sais qu'il faut que ça avance. C'est un combat essentiel, mais qui risque. Il faut que l'on fasse attention, nous les femmes aussi, à ce que ça ne nous revienne pas comme un boomerang. Si tout à coup, on cloue au pilori des hommes en particulier qui n'ont pas encore été jugés et dont la culpabilité n'est pas avérée. Donc
c'est un fil,
mais en même temps, quand on veut que les choses avancent, elles doivent avancer, mais il faut faire très très attention.
Je le disais, je me suis replongée dans les archives que vous mettez à disposition sur votre chaîne YouTube, et j'ai effectivement bien revu cet entretien avec Linda, à 14 ans, maman d'une petite fille de 16 mois au moment de l'interview. Un moment magnifique, un moment très fort. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez l'air d'être dans une conversation spontanée, comme si vous étiez une amie ou une tante de cette jeune fille, alors que c'était tout sauf de l'improvisation, n'est-ce pas, ces entretiens?
Ah, c'était de l'improvisation totalement.
C'était de l'improvisation.
Mais non. Et vous parlez de celle de avec 94
Linda,
oui. Ou maintenant?
Non, l'ancienne, celle de 94.
Oui, non, mais c'était. Je ne rencontrais jamais les invités auparavant. Enfin, jamais. Je ne les avais jamais au téléphone avant. Enfin, quand je vous parle d'improvisation, vous voyez que je n'ai même pas de. Je n'ai même pas de.
Vous n'aviez pas de fiches que j'ai eu
plus tard, comme tout le monde. D'accord. J'avais mes fiches pour un petit peu m'y référer. En revanche, j'avais une équipe de journalistes qui avaient travaillé, donc j'avais des infos qui m'étaient données, évidemment. Donc j'avais une espèce de, comment dire, un fil conducteur. D'accord. Comme une autoroute, vous voyez.
Vous saviez où vous alliez à peu près.
Oui, je savais les questions et dans quelle émission j'étais, évidemment. Le sujet est ce que je poursuivais, mais je prenais en permanence, et c'est là où c'était formidable, des chemins de traverse. J'étais tellement à l'écoute et tellement justement sans avoir toutes les questions préparées, et aucune question d'ailleurs vraiment préparée, et je partais dans ces chemins de traverse et j'ai découvert des choses.
C'est grâce à ça que les moments de télévision étaient incroyables.
C'est là que se disaient souvent les choses les plus intéressantes et surprenantes.
Mais est-ce que c'était difficile de garder un équilibre entre professionnel, la journaliste, et la confidente qui devient presque l'amie? Est-ce que vous étiez sur ce fil là aussi?
Oui, j'étais sur ce fil, mais je me suis jamais sentie amie. Pas du tout. C'était un point de tricot. Je pense que, c'est difficile de parler de soi, mais quand j'y repense, j'étais réalisatrice de documentaires. Ouais. Un réalisateur, il a envie d'entrer dans la tête de celui qui est en face de lui ou d'elle. Et le journaliste se doit d'avoir ce recul nécessaire pour poser toutes les questions. Et je pense que je faisais un point de tricot, effectivement, et c'est ce que je fais toujours, un point de tricot entre les deux, et en gardant quand même cette distance qui me permet de ne pas aussi sombrer dans l'émotion.
C'est ce que j'allais vous dire, d'être débordée
par tout ça. Donc ça, je pense que je l'ai plus ou moins géré, tout en sachant qu'au bout de 4 ans de balai-masque, c'est vrai, quand l'émission s'est arrêtée, j'étais exténuée. J'avais l'impression qu'on m'avait pris toute mon énergie.
Vous aviez épongé toutes les émotions des autres et...
Oui. C'était quelque chose de... Voilà, c'est un échange très, très fort. Et c'était tellement fort que quand j'ai retrouvé Linda, il y a quelques mois... Vous imaginez, depuis, on s'était jamais parlé, ni rien. Elle m'est tombée dans les bras, elle m'a tutoyée alors qu'on se vouvoyait à l'époque. Et effectivement, là, je me suis rendu compte de la puissance de l'échange pour que des décennies après, il y ait cette, presque une amie qui me parlait et à ce moment-là, qui se confiait. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était quand même une jeune fille.
Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est public. Le privé est allé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore une sphère privée à interroger? Est-ce que dans cette ère des réseaux sociaux, pour ne pas les nommer, puisque c'est ça dont je parle, on peut encore interroger le privé, ou finalement ça n'a plus d'intérêt puisque tout le monde le déballe, le privé?
Le privé n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai déjà interviewé le privé, même si mon émission s'appelait Vie privée, vie publique, parce que ça sonnait. Moi, ce que j'interroge, c'est l'intime.
Et donc, vous faites une différence.
Ah ben oui, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont ces sentiments intimes qui sont absolument uniques et en même temps, vous en parliez tout à l'heure, qui touchent l'universel. Oui. Et moi, c'est cette intimité-là que j'interroge et qui sera interrogé dans 1000 ans si toutefois l'humanité existe toujours sous cette forme, mais elle est universelle. Vous voyez, cette intimité, c'est quelque chose qui fait part du, c'est le sentiment, le privé, franchement ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, ça s'étale partout sur les réseaux.
Ce qui est intéressant, enfin ce qui est certain, c'est que vous preniez le temps et que vous avez été, vous vous êtes battu pour le garder, ce temps. À chaque fois, on me disait, Mireille, des interviews rapides. À chaque fois, j'ai fait le contraire, j'ai donné du temps au temps et je m'aperçois qu'on écoute, que les jeunes écoutent aussi les interviews longues sur la chaîne YouTube. C'est fou ce contraste entre ce que les gens de télé peuvent croire d'un audimat, d'une audience, oui, et la réalité, oui, de cette audience qui, en fait, peut apprécier le moment long, le temps long.
Oui, c'est ce que l'on m'a dit dans les années 90, quand j'ai lancé vie privée, vie publique. Oui. On m'a répété en 2000, attention.
Oui, l'ère du zapping, faut aller vite.
Et tout. J'ai toujours fait effectivement le contraire. Pourquoi ? Parce que quand vous, de toute façon, vous mêlez des anonymes avec des personnes qui sont rompues à la parole, il faut donner du temps aux anonymes, qu'ils s'habituent aux médias. Et en revanche, il faut aussi donner du temps, mais d'une autre manière, à ceux qui sont rompus à cet exercice, justement pour pouvoir les interviewer un peu plus, qu'ils ne vous sortent pas des les phrases toutes faites.
On vous demande toujours qui vous a le plus marqué dans cette belle collection d'entretiens. Vous parlez de Jean-Louis Trintignant qui évoque la mort de sa fille. Vous parlez aussi de Bernard Giraudot qui vous regarde droit dans les yeux en évoquant sa mort prochaine. Vous parlez aussi d'une femme séropositive qui se sait condamnée. Le point commun à tous ces gens, est-ce que c'est leur dignité face à l'épreuve? Est-ce que c'est ça qui vous a particulièrement touché, la dignité?
Oui, ça touche toujours. De toute façon, ça vous oblige, vous aussi, à être dans une sorte, justement, de dignité face à eux. Mmh. Moi, je pense que ce que je recherche, on parlait d'intime tout à l'heure, c'est justement ce qui fait, ce qui est la grandeur, d'ailleurs, de l'être humain et en même temps sa petitesse, parce qu'on n'est rien du tout, mais c'est comment on peut se transcender, comment on se construit par rapport à ses blessures d'enfance, comment on est déconstruit par rapport à ses blessures d'enfance aussi. Mmh. C'est tout. C'est la façon dont on va affronter tous ces moments de vie, des moments de joie, mais des moments qui sont absolument, absolument terribles.
Le regard de Bernard Giraudot fait partie de ces moments.
Le regard de Bernard Giraudot, il était bouleversant, plus que son regard, d'ailleurs, c'est ce qu'il disait. C'est quand quelqu'un vous regarde droit dans les yeux et vous dit, finalement, le cancer, d'une certaine manière, me sauve la vie, alors qu'il va en mourir et qu'il le sait, mais me sauve la vie parce que j'étais dans une machine à laver, comédien, le paraître, etc. Et que finalement, je suis maintenant dans l'essence même de la vie. Ça donne du sens à ma vie. Mmh. Oui, c'est quelque chose de très, très fort. Et c'est un message fort, d'ailleurs, pour tout le monde qui nous interroge sur le sens de la vie. Parce qu'il n'y a que ça d'important.
Ouais. Jamais blindé, jamais désensibilisé par cette collection d'entretiens et d'émotions que vous avez subies et vécues.
Non, jamais. C'est-à-dire toujours envie d'embrasser cette vie qui est absolument incroyable. On a une vie la mienne est riche, comme tout un chacun. On a plein d'expériences. Et en même temps, cette expérience, elle est unique. C'est la mienne. Donc, pouvoir effectivement embrasser toutes ces vies, franchement, je me sens riche de ça et c'est ce que j'ai envie de... On m'apprend et j'ai envie de donner aussi ce que je ressens et ce que je peux apprendre modestement.
Et vous le faites, vous l'avez fait. J'ai un document à vous proposer, Mireille Dumas. Oui. Je vais le mettre entre vos mains et puis le décrire pour les gens qui nous écoutent. Il nous a été délivré par nos partenaires, les Archives Nationales. C'est le certificat d'aptitude au baccalauréat S-Lettres, délivré le 17 août 1861 à une certaine Julie-Victoire Daubier, une femme exceptionnelle, militante des droits des femmes, la première femme française à s'inscrire aux épreuves du baccalauréat à Lyon, la première à l'obtenir, ce 17 août donc. Elle est aussi la première licenciée en lettres en 1871, à l'époque où les cours à la Sorbonne ne sont même pas ouverts aux femmes. Au départ, elle était enseignante, institutrice, et je m'adresse là à la fille d'instituteur. Que vous inspire ce document ?
Écoutez, ça me touche beaucoup, effectivement. Je pense à ma mère qui est née quelques années après, presque un siècle après, en 1913, ouais. Mais qui a élevé, mon père est mort très très jeune, elle a élevé effectivement seule ses 6 enfants. Mmh. Et c'est elle qui a fait la citoyenne que je suis. Elle m'a enseigné ça existait à l'époque d'ailleurs, l'instruction civique, on avait des cours d'instruction ouais. civique à l'école, mais surtout par sa manière de vivre. Ouais. Je pense que c'est elle qui m'a construite et qui m'a donné aussi cet appétit des autres dans toutes leurs différences. Mmh. Voir que justement la richesse, c'est cette différence.
Est-ce qu'elle était elle-même féministe et est-ce qu'elle vous a rendu féministe ? Je vous pose cette question parce qu'elle vous a souvent dit cette phrase si structurante et si fondamentale, ouais. votre corps vous appartient.
Oui, oui. Et je me rappelle que la première fois d'ailleurs qu'elle nous a parlé de viol sur les enfants, c'est une petite fille, on était à l'école, qui était donc en cours, mmh. et les gendarmes sont venus la chercher parce que son père l'a violée. Mmh. Donc ils l'ont emmenée sans aucune explication, et ma mère, qui était en même temps mon institutrice, nous a expliqué.
Bon, ah oui, après, elle a improvisé un cours sur le sujet.
Mais bien sûr, donc c'est ce qui était quand même assez délicat. À l'époque, oui. Et c'est vrai que moi j'ai grandi avec cette phrase, ton corps t'appartient. Et alors ce sont des mots
qu'on entend maintenant. C'est très moderne.
Oui, oui, mais elle s'était justement, battue pour l'avortement. Mmh. On parlait souvent du droit de choisir sa mort aussi. Mmh. D'ailleurs, qu'elle mettait en lumière l'un par rapport à l'autre. Et moi, j'ai été construite par cela. Mmh. Et je pense que si je suis allée très tôt aussi vers des sujets, mmh. pouvoir lever mmh. ces voiles sur des sujets tabous qu'on n'abordait pas, c'est parce que j'avais cette phrase de ma mère qui nous a élevés, et c'est très important, qui a élevé ses filles comme ses garçons. Mmh. Je n'ai Sans pas différence. Eu l'impression d'avoir une éducation justement de filles.
Différenciées.
Mmh. On était élevés de la même façon. Mmh. Ça, franchement, je l'en remercie. Ouais.
Un mot de ses origines italiennes, de votre mère, hein, qui était issue d'une famille en plus catholique, traditionnaliste, italienne. Vous dites, vos grands-parents chuchotaient des mots en italien, mais nous devions de ne parler qu'au français. Il fallait s'intégrer, épouser le désir de ma mère d'être comme les autres. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'elle a vécu le rejet ? Est-ce qu'elle vous a transmis cette peur du rejet d'être l'étrangère de l'autre ?
Non, ce n'était pas la peur qu'elle nous a, ouais. justement, qu'elle nous a transmis. C'était l'envie d'être, de faire partie d'une communauté
nationale.
nationale.
Ouais.
Oui, je dis bien communauté nationale.
Oui, oui.
C'était d'être exactement. Elle est allée très loin d'ailleurs, puisque en fait, elle était quand même institutrice, école laïque, etc. Mais elle nous envoyait au catéchisme alors qu'elle avait beaucoup, beaucoup de réticences par rapport à la religion. Ouais. Peut-être pas par rapport à Dieu, d'ailleurs, c'est un peu...
C'était différent dans son
mais
esprit.
Mais quand même, enfin, par rapport à la religion. Mais c'était pour être avec les élèves qui étaient tous au catéchisme. Quand on travaillait bien, parce que quand même, on avait notre mère qui nous faisait bosser le soir, quand même un petit peu, eh bien, la remise des prix... Nous, on avait toujours un prix ex aequo où elle nous rétrogradait au deuxième prix. Enfin, il fallait absolument que l'on puisse être comme les autres.
À la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille qui se lance dans la vie, qui va commencer sa vie?
Si je me regarde, ouais. Surtout de me ressembler. Voilà, de rester fidèle à ce que je crois et de ne pas faire trop de compromis. Je dis trop parce qu'on en fait toujours en étant sincère. Il y a toujours un moment où on est obligé de faire des compromis. Mmh. Mais en tout cas, de se regarder bien dans la glace jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que c'est important de ne pas se renier.
Autre rituel dans cette émission, des photos que j'ai à vous proposer, Mireille Dumas. La première, la voici. Il s'agit d'Olivier Servat. C'est un député qui a proposé une loi pour sanctionner les discriminations capillaires. Les hommes chauves, ceux qui ont des cheveux roux, des cheveux crépus, notamment dans le monde du travail. On est dans un moment où on chasse toutes les discriminations. Vous applaudissez ou vous dites parfois ça va un peu loin ?
Oh, c'est compliqué comme question. Elle est compliquée parce qu'en même temps, on est dans le superflu. Vous voyez, puisque moi j'étais, moi on m'a appelé mouton frisé, enfin.
Donc vous connaissez.
Je connais
le sujet.
Il me parle de quelque chose que je connais parfaitement.
En télévision, on vous a appelé mouton frisé.
Non, quand même pas. Mais quoique, j'ai eu espèce de caniche, le caniche. Mmh. Enfin non, j'ai eu des au début de ma carrière.
Donc la discrimination capillaire, ça vous parle.
Non mais moi, ça me parle. Je n'aurais pas pensé faire une loi. Mais ça me parle. Mais écoutez, hein, c'est que ça va plus loin en fait que la couleur des cheveux. C'est souvent se cache d'autres choses derrière les fameux cheveux frisés. Mmh. C'est de ça dont il est question aussi.
Une deuxième photo, il s'agit de l'affiche du film d'anticipation Her de Spike Jonze avec Scarlett Johansson. L'actrice y joue une intelligence artificielle capable de recueillir les confidences et les malheurs des autres. Sauf que l'un de ses patients va tomber amoureux d'elle et devenir fusionnel. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'intelligence artificielle pourra prendre le rôle des psychologues ou le rôle des gens comme vous qui avez écouté toute votre vie ?
Écoutez, c'est à double tranchant. L'intelligence artificielle rend des services, on le sait déjà aujourd'hui, formidables en médecine et dans des tas de domaines. Mmh. En même temps, vous savez que le grand danger, c'est que justement, l'intelligence artificielle prenne le pouvoir sur l'homme. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'impossible. C'est la fin. En fait, c'est d'une certaine manière, c'est la fin de l'humanité et de l'homme comme on l'entend aujourd'hui. Voilà, je pense que dans certains domaines, il faut faire très, 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 très attention.
Et vous, aucun
Non, pas parce que je ne voudrais pas être remplacée.
Hein. Oui, j'ai compris.
Ça n'a rien à voir. C'est que, et puis en plus, il y a des. Vous voyez, c'est la machine. Mais déjà, on est dirigé beaucoup par l'intelligence artificielle et par les machines, énormément.
Vous avez déjà essayé de discuter avec ChatGPT ou pas ?
Pas encore.
Pas encore. Ah, pas encore, vous dites.
Pas encore. Non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse, mais il y a quelque chose de terrifiant, je vous dis. Et en même temps, l'intelligence artificielle, elle est heureusement partout aussi pour sauver des gens.
J'ai une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Mireille Dumas.
Donc l'intelligence artificielle peut me remplacer.
Non, pas encore. On a quatre statues, on est entouré de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous touche, qui vous parle, qui vous caractérise ?
Alors, bien sûr, elle est en face de moi, enfin, à ma gauche. Elle s'appelle la justice.
C'est celle-ci que vous choisissez ?
C'est celle que je choisis sans hésiter. C'est celle qui me parle le plus et je pense que c'est aussi dans le sens de mon travail, de ce que j'ai fait. C'est d'une certaine manière de rendre justice en donnant la parole à tout le monde.
Et en écoutant. Merci.
Et en écoutant, bien sûr.
Merci Mireille Dumas d'avoir été notre invitée dans Un Monde, Un Regard. Merci beaucoup de vous être prêtée au jeu cette fois, de l'interviewer face à l'intervieweuse. Merci infiniment. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en podcast, vous le savez. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.